Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
En la fête de la Toussaint, le pape François nous a parlé des saints et des saintes à l'Angélus, le midi, place Saint-Pierre, mais aussi au cimetière du Verano, le plus grand de Rome. Le pape a eu une pensée pour les chrétiens persécutés dans le monde et les migrants. Nous illustrerons ces réalités avec un entretien sur la vie des chrétiens au Pakistan, mais aussi l'appel d'Amnesty International pour l'accueil des réfugiés syriens. Nous parlerons enfin d'une conférence au Vatican sur le trafic d'êtres humains et l'esclavage moderne. Cette rencontre a été voulue par le pape François. Le pape François, suivant l'exemple de Jean-Paul II, qui avait été le premier à le faire en 1979, a donc célébré ce vendredi après-midi la messe de la Toussaint, fête commémorant les saints et saintes de l'Église catholique dans le grand cimetière du Verano à Rome, le plus important de la ville éternelle. Laissant le texte prévu, le pape, improvisant toute l'homélie, a surtout voulu parler de l'espérance. Marie Duhamel.
En ces jours d'espérance où nous commémorons tous les saints et les défunts, il faut que nous pensions un peu à l'espérance qui nous accompagne dans la vie. Les premiers chrétiens la représentaient par une ancre qui t'aide dans la vie. Nous devons avoir le cœur ancré là où sont nos ancêtres, les saints, Dieu. Là est l'espérance qui ne déçoit jamais. Il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec l'espérance, l'âme va de l'avant. L'espérance est comme un levain qui élargit l'âme. Alors que le crépuscule approche, a ajouté le pape en cette fin d'après-midi, entouré par des milliers de fidèles dans le cimetière romain, chacun peut réfléchir au crépuscule de sa vie, parce que tous, nous le vivrons, et se demander où est ancré notre cœur. Et s'il n'est pas bien ancré, ancrons-le à ce rivage de Dieu, parce que nous savons qu'il ne nous déçoit pas. Ces jours de la Toussaint et des défunts sont des jours d'espérance, a insisté le pape, la beauté, la vérité, le véritable amour et ce qui nous attend. Et tous ceux qui nous ont précédés sont là et proclament qu'ils ont été sauvés, non pour leurs bonnes actions, même s'ils en ont accompli, mais uniquement par le Seigneur qui nous prend par la main comme un Père. Si aujourd'hui nous faisons mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans le ciel, a encore ajouté le pape, c'est parce que cette espérance ne déçoit pas, le Seigneur ne déçoit jamais. Regardez le grand amour qu'il nous donne, nous sommes fils de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été révélé, nous serons encore plus, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons comme il est. Et nous aussi, a assuré le pape, nous serons là seulement par la grâce du Seigneur. Quiconque a cette espérance se purifie, car l'espérance purifie, élargit l'âme. Alors regardons tous vers l'avenir avec espérance, avec la joie d'être reçus par le Seigneur. C'est cela l'espérance chrétienne qui nous donne la paix. Ce jour est un jour de sérénité, de joie tranquille. Et précédemment, ce vendredi midi, le pape avait présidé la récitation de l'Angélus, place Saint-Pierre, l'occasion pour lui, dans sa catéchèse, de souligner déjà que les saints ne sont pas des surhommes, les saints ne sont pas nés parfaits, a-t-il déclaré, ils sont comme nous, comme chacun de nous, des personnes qui, avant d'atteindre la gloire du ciel, ont vécu une vie normale, avec ses joies et ses souffrances, ses fatigues et ses espérances. Les saints sont des hommes et des femmes qui ont la joie dans le cœur et qui la transmettent aux autres. Pour le pape François, il faut bien se mettre en tête qu'être saint n'est pas un privilège pour certains, mais bel et bien une vocation pour tous. Tous nous sommes donc appelés à marcher sur la voie de la sainteté. Que nous disent encore les saints aujourd'hui, s'est-il interrogé? Par leur témoignage, ils nous encouragent à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant ou d'être incompris et moqués. Ils nous montrent par leur vie que ceux qui restent fidèles à Dieu et à sa parole expérimentent déjà sur cette terre le réconfort de son amour et de l'éternité.
Yeah.
Et au terme de l'Angélus, le pape avait lui-même annoncé qu'en se rendant au cimetière du Verano, il s'unirait spirituellement à tous ceux qui ces jours-ci visitent les cimetières où reposent ceux qui nous ont précédés dans le signe de la foi et attendent le jour de la résurrection. Il a assuré que sa prière en ce jour irait, en particulier pour les victimes des violences, spécialement les chrétiens qui ont perdu la vie à cause des persécutions. Le pape a aussi évoqué le drame qui s'est joué au Sahel cette semaine et une prière toute particulière, a-t-il dit, pour nos frères et sœurs, ces hommes, femmes et enfants, morts de soif, de faim et de fatigue, sur le chemin menant à des conditions de vie meilleures. Ces derniers jours, nous avons vu les images du désert cruel. Le pape a demandé aux fidèles de prier en silence pour ces migrants. Migrants, réfugiés, Amnesty International alerte une fois encore sur le sort des réfugiés syriens. Dans un nouveau rapport, l'ONG fait état de nouvelles restrictions imposées aux civils syriens qui fuient la guerre. Restrictions imposées par les pays limitrophes de la Syrie, surtout la Jordanie. Ce pays accueille, il est vrai, déjà plus de 550 000 réfugiés syriens. Il doit faire face à des pénuries croissantes d'eau et d'électricité dues à cet afflux de réfugiés dans le pays. La situation pour les pays d'accueil devient problématique en général. Amnesty International le sait bien et en appelle à la communauté internationale. Elle a un rôle important à jouer pour soutenir les pays de la région qui portent le fardeau des réfugiés syriens avec de faibles ressources, affirme ainsi Philippe Luther, directeur d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Une action immédiate est nécessaire pour accroître l'aide humanitaire international, ajoute-t-il encore. C'est également l'avis de Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées à Amnesty International France. Il est interrogé par Manuela Afidji.
Depuis plusieurs mois, nous constatons que les pays voisins de la Syrie commencent à mettre en place des politiques de contrôle, d'empêchement d'arrivée des réfugiés sur leur territoire, de renvoi éventuellement même de réfugiés en Syrie, là où ils sont en danger. Et tout ça simplement parce qu'en fait, ils accueillent quasiment 2 millions de réfugiés à eux seuls. Nous avons plusieurs témoignages depuis le mois d'avril de personnes qui sont bloquées à la frontière et qui ne peuvent pas rentrer en Jordanie. Cela concerne 4 catégories de personnes, des réfugiés palestiniens, irakiens qui étaient déjà présents en Syrie, des hommes seuls sans attache avec la Jordanie ou des personnes qui n'ont pas de documents d'identité. Ces personnes-là ne peuvent pas rentrer, ne peuvent plus rentrer en Jordanie. Il y a aussi des cas plus durs encore de familles qui sont bloquées pendant des semaines, voire des mois avant de pouvoir rentrer en Jordanie. Et pendant tout ce temps, elles sont dans des no man's land, près des combats en Syrie et surtout sans ressources, sans aide humanitaire. Et effectivement, nous en appelons à la communauté internationale pour qu'elle aide, cette communauté internationale, ces États-là, à lever ces restrictions en apportant une aide, c'est-à-dire en assurant une aide financière, notamment, et humanitaire pour accueillir les réfugiés sur place. À la fois, nous dénonçons ces atteintes aux droits des réfugiés commis par ces États, mais en même temps, nous appelons la communauté internationale à prendre conscience de ces problèmes-là et à agir pour lever ces problèmes.
Le pape qui priait aussi en cette fête de la Toussaint pour les chrétiens qui ont perdu la vie à cause des persécutions. Prenons la direction ainsi du Pakistan, où ce vendredi 1er novembre, la ville de Faisalabad accueillait un nouvel évêque, ordonné par le cardinal Filon et le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui est arrivé au Pakistan ce jeudi. Il a déjà ainsi présidé une messe en la cathédrale de Lahore, en présence d'évêques, de prêtres, de religieux, de séminaristes et de laïcs, et leur a dit « Vous n'êtes pas abandonnés ». Au contraire, vous êtes la partie la plus noble de l'Église universelle et malgré les difficultés, vous témoignez avec courage de votre fidélité au Christ, vous qui êtes tout à la fois chrétien et pakistanais. Il est vrai qu'il n'est pas simple d'être chrétien au Pakistan. Discrimination, conversion forcée ou même menace à cause de la loi sur le blasphème. Nous revenons sur la vie de ces chrétiens pakistanais avec Mgr Joseph Kutz, l'évêque de Karachi et président de la Conférence épiscopale du Pakistan.
Il n'y a pas de ghetto chrétien au Pakistan. Pour le président de la conférence épiscopale pakistanaise, c'est avec ce genre d'idées qu'on fait des dommages. Au contraire, insiste-t-il, musulmans et chrétiens partagent leur quotidien dans la paix. Mgr Joseph Kutz.
On a des écoles, des hôpitaux, et qui y viennent ? Des musulmans, et ils aiment nos écoles. À Karachi, nous avons un hôpital catholique, et il n'y a qu'un médecin catholique qui y travaille, les autres sont musulmans. Vous savez, quand j'ai été ordonné évêque, mes voisins musulmans, pas tous, mais deux d'entre eux étaient là parce qu'on a grandi ensemble. Et ils ont apprécié la célébration, la solennité et les chants. Il y a aussi de belles choses.
Aussi, parce que les chrétiens ne représentant que 2,2% de la population à 96% musulmanes subissent néanmoins un certain nombre de discriminations. Mgr Kutz.
La majorité des chrétiens appartient aux classes les plus basses de la société. Mais dès lors, que se passe-t-il ? Quand vous êtes dans un pays musulman, s'il y a un emploi à pourvoir et 5 candidats, ils choisiront un musulman plutôt qu'un chrétien. Et c'est la même chose avec les promotions, en particulier dans l'armée ou dans des administrations importantes. Ils n'aimeront pas vous voir grimper l'échelle. C'est ce genre de discrimination. Je ne veux pas justifier, mais c'est quelque chose de psychologique. Dans tous les pays, il y a un groupe ou une communauté que l'on regarde avec mépris, comme les États-Unis et les Noirs. Regardez comme ils se sont battus. Et maintenant, ils ont un président.
L'évêque de Karachi reste donc confiant. Pourtant, les épreuves sont de taille. Chaque année, 700 chrétiens sont convertis de force. Une violation grave à la liberté religieuse, mise à mal également par la loi noire, celle sur le blasphème. Selon la Human Rights Commission of Pakistan, au moins 161 personnes ont été inculpées en 2011. 9 ont été tuées sans procès.
Si vous ne voulez pas abolir la loi, alors apportez des changements afin qu'on ne puisse pas l'utiliser à mauvais escient, comme c'est le cas maintenant. On se bat depuis 1986 et le Conseil de l'idéologie islamique a tenu une réunion le mois dernier à ce sujet sans succès. Les groupes extrémistes sont les plus forts au sein du Conseil, mais cependant, beaucoup de musulmans commencent à reconnaître la vérité. Cette loi, vous savez, elle ne mentionne pas la notion de blasphème intentionnel. L'ajout du mot « intentionnel » ferait la différence. C'est le genre de choses qu'on voudrait pour nous protéger. Il y a autre chose. Aujourd'hui, il suffit de se rendre au poste de police et de dire que quelqu'un a blasphémé. Quand un rapport est écrit, c'est là que tous les problèmes commencent. Donc, nous, on souhaiterait que de simples officiers de police ne puissent plus être autorisés à écrire ce rapport. Ce devrait être un magistrat ou une autre personne. C'est ce qu'on demande.
Et il faut ajouter à cette difficulté majeure un problème lié au contexte régional, au conflit en Afghanistan voisin, à la guerre lancée contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Les chrétiens sont une cible facile pour les fondamentalistes et autres talibans. Monseigneur Kutz.
Ce groupe a attaqué l'armée en tuant un général. Il s'en est pris une base militaire, un quartier général à Islamabad. Ils ont attaqué une école de police et tué plus de 100 futurs policiers antiterroristes. Ils ont attaqué tant de cibles. Mais maintenant, la police et l'armée ont des revolvers plus performants, de meilleures armes et de meilleurs gilets pare-balles. C'est devenu plus difficile et ils se disent « Ah, allons attaquer des chrétiens, ils sont faciles à attaquer ». C'est ce que j'entends par « soft target », nous sommes une cible facile. Aujourd'hui, les terroristes ne sont pas en train de s'en prendre à n'importe qui dans la rue. La récente attaque, l'église de Peshawar, a des connexions politiques. Ils veulent que les Américains quittent l'Afghanistan. Donc ils tuent des chrétiens en se disant « on espère que les Américains s'en iront, sinon on tuera plus de chrétiens ». Ils nous lient aux Américains et c'est dangereux. Ils sont chrétiens et vous l'êtes aussi. C'est une mauvaise connexion.
Face à ces amalgames, ces injustices, pas question de prendre les armes. Pour autant, les chrétiens refusent de se taire. Récemment encore, on a vu Mgr Kutz se défiler aux côtés de centaines de fidèles. « Ne tuez plus les chrétiens », banderole en main ou assis sur le trottoir pendant des heures, pour montrer aux musulmans leur désarroi. Car, comme le dit Mgr Kutz lui-même, « comment voulez-vous qu'une mère comprenne la douleur de son enfant si celui-ci ne verse aucune larme ?»
Un sujet signé Marie Duhamel. Je vous le disais dans le sommaire de ce magazine, l'Académie pontificale des sciences et l'Académie pontificale des sciences sociales organisent les 2 et 3 novembre un groupe de travail sur le trafic d'êtres humains et l'esclavage moderne. Cette rencontre a été voulue par le pape François qui a personnellement écrit au chancelier de l'Académie pontificale des sciences, l'argentin Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, l'invitant à traiter de ces questions. Le Saint-Siège précise, Mgr Sorondo entend établir une collaboration entre le groupe de travail voulu par le pape François et les institutions et organisations qui luttent contre la traite des êtres humains. Cette rencontre a également pour but de mettre en lumière les nouveaux instruments à utiliser contre les nouvelles formes d'esclavage, comme un registre digital permettant de confronter le DNA des enfants disparus non identifiés avec celui de leurs proches qui ont dénoncé leur disparition. Écoutons Mgr Sorondo interrogé par Hélène Destombes.
La chose est aussi dramatique, finalement, que le même pays ne veut pas parler clairement de ça. Pas seulement ne veut pas parler, mais enfin, ce que nous pouvons dire, le double message. Parce que d'un côté, parle de la dignité, spécialement de la dignité de la femme et tout ça, et elle maintenant connaît perfectement que les institutions qu'il y a pour défendre ça sont compromis et les mêmes trafics. Et aussi, par exemple, la reconnaître la prostitution comme un travail, ça c'est une chose qui naturellement crée les marchés.
Quels sont les documents les plus importants du magistère qui traitent de cette question fondamentale de la traite des êtres humains ?
Naturellement, le magistère a un document contre le travail forcé, un document contre l'esclavage et un document, pas beaucoup pour dire la vérité, une seulement je pense, du pape. C'est le pape Jean-Paul II qui a fait un texte très, très beau, la lettre, quand était organisé un autre meeting sous ça pour une ambassade ici à Rome. Alors, pas beaucoup, pour dire la vérité, pas beaucoup.
Donc, il y a encore beaucoup à faire aussi en ce qui concerne les textes et les documents.
Oui, je pense que, pas seulement sur les textes et sur les documents, mais aussi sur la stratégie commune que doit avoir toute l'Église. Naturellement, ce sont les conférences épiscopales qui ont fait très beaux documents, particulièrement en Latine-Amérique, et qui souffrent de ces problèmes. Et, par exemple, les évêques anglais sont, ont une grande préoccupation sur ces problèmes. Et tous les aspects, ce n'est pas le trafic sexuel, mais aussi le trafic humain pour le travail. Alors, c'est beaucoup de choses qui sont bien organisées et proposées à la Saint-Siège d'avoir une stratégie commune sur ça.
Cette rencontre naît donc sous l'impulsion du pape François. On peut imaginer qu'il va suivre les travaux avec une grande attention.
Oui, je pense qu'il connaît beaucoup de gens qui viennent. Et ils suivent les choses avec grande attention. Et ça, c'est une espèce d'instinct que nous pouvons dire à le pape pour aller à trouver la personne qui souffre, comme je le dis. Et il la connaît directement quand elle était avec Buenos Aires. Et beaucoup de ces gens, et il a défendu, et beaucoup de ces gens ont les mêmes qui sont été en esclavage, sont sortis d'esclavage, et se sont convertis aujourd'hui en vraiment en les meilleures personnes qui cherchent de porter la liberté à tout ce monde.
Et le rapport 2012 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur le trafic des êtres humains estime à 21 millions pratiquement, le nombre de victimes du travail forcé entre 2002 et 2010. En outre, quelques 2 millions de personnes, dont 60% de filles, sont victimes du trafic sexuel chaque année. Le trafic d'organes humains représente lui presque 1% de ce chiffre, touchant environ 20 000 personnes à qui sont prélevés des organes de manière illégale et sous diverses formes de ruses. Ainsi, au Bangladesh, des pauvres sont contraints de vendre leurs organes pour payer leurs dettes. Malgré une loi qui interdit le trafic et la publicité des vendeurs d'organes et qui n'autorise les greffes qu'entre parents ou époux, le marché noir continue de proliférer. C'est ce que rapporte ce jour même l'agence missionnaire Fides. Actuellement, au trafic de reins est venu s'ajouter celui de foie et de cornée. Nombre d'hôpitaux se sont ainsi vus obligés d'introduire un test ADN. Justement, la pratique cruelle consistant à vendre des organes au Bangladesh a débuté en 1982 et leur commercialisation a immédiatement suivi. C'est seulement en 1999 que le Parlement du pays a adopté l'Organ Transplant Act qui interdit le trafic et la publicité des vendeurs d'organes. Selon la loi, les greffes donc sont légales seulement entre parents et entre époux. Toutefois, le marché noir continue. Les interventions sont pratiquées dans des hôpitaux privés du pays, par des médecins complaisants ou dans des pays tels que l'Inde ou aussi Singapour, où le système sanitaire est meilleur. Les intermédiaires falsifient les passeports et produisent des documents légaux attestant que le donateur et le destinataire ont bien un lien de parenté. Nombre d'hôpitaux ont donc dû introduire ce test ADN. Il faut savoir que l'idée de la vente d'organes n'est pas nouvelle et les pauvres de toute l'Asie du Sud y ont eu recours pendant des années. Ce qui est moins connu, c'est que beaucoup y ont recours par peur de ne pas pouvoir rembourser leurs créditeurs. À l'origine, les instituts de microcrédit ont été créés pour aider les personnes à sortir de la pauvreté, encourager la création d'entreprises et l'émancipation des femmes en offrant de petits crédits à ceux qui n'étaient pas en mesure d'obtenir des prêts bancaires traditionnels. Ainsi prend fin ce magazine. N'hésitez pas à nous retrouver bien sûr sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur notre Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr demain, où que vous soyez.